voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Après un parcours classique en entreprise et dans l'administration culturelle, Blandine décide de s'engager dans une nouvelle voie porteuse de sens. Elle souhaite faire sa part de colibri en participant à la diffusion plus large d'une éducation respectueuse de l'être au service du vivant. Blandine cofonde le mouvement Printemps pour l'éducation et accompagne son développement depuis plus de 3 ans. Citoyenne engagée, avec l'envie de mettre du sens dans ses actions, je vous emmène à la rencontre de Blandine, une énergie positive à disposition du nouveau paradigme qui se construit pas à pas.
Alors, moi je m'appelle Blandine Swingedo et je crois que l'éducation m'a toujours passionnée dès toute petite. J'ai fondé le Printemps de l'éducation en mai 2012 avec Antonella Verdiani notamment. Depuis ce moment-là, j'ai commencé à mettre en lien différentes initiatives en commençant l'annuaire du Printemps de l'éducation en ligne. Et à promouvoir à travers différentes actions une autre éducation, une éducation qui mette l'enfant au cœur, qui s'adresse à l'enfant dans sa totalité, dans ses émotions, dans son mental bien sûr, mais aussi son cœur et aussi son aspect spirituel. Voilà.
Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à l'éducation? Quand est-ce que tu as commencé à t'interroger sur le système éducatif? Parle-moi un peu de ton cheminement et comment tu t'es interrogé sur ce qu'était l'éducation et les limites.
Déjà, petite, je m'ennuyais un petit peu à l'école. Et à côté de cela, je m'éclatais au scout, par exemple, ou dans des domaines artistiques comme la danse. Et donc, je me suis interrogée sur pourquoi je m'ennuyais à l'école et pourquoi j'étais aussi épanouie par ailleurs. Donc en fait, j'ai vécu plusieurs types d'écoles. L'école de la nature avec les scouts et puis l'école un peu plus formelle. Et puis plus tard, en fait, j'ai beaucoup investi dans mes études. J'ai fait une voie assez classique. J'ai fait une prépa HEC, une école de commerce. Et je me suis rendu compte pendant la prépa HEC à quel point il y avait de la pression et à quel point la vie n'existait quasiment plus en dehors des études. Et pour moi, ça a été une assez grande souffrance. Ensuite, j'ai intégré une école de commerce où je me suis rendu compte que les valeurs que j'avais à l'intérieur de moi n'étaient pas forcément celles qui étaient partagées par le plus grand nombre. Et petit à petit, j'ai cheminé, j'ai commencé dans l'industrie et en fait, je me suis dit non, ça va pas du tout, je suis pas au bon endroit. Et j'ai fait une première reconversion, j'ai repris des études et ensuite, j'ai intégré le musée du Louvre pendant 7 ans où je me suis occupée de donner l'accès au plus grand nombre à la culture, et pour moi, la culture aussi, c'est la connaissance de soi. C'est-à-dire que l'art permet, selon moi, de vraiment comprendre ses émotions, être avec soi, être avec les autres, comprendre le monde. Et ensuite, j'ai trouvé que le Louvre, c'était un peu pyramidal pour moi. Je sentais qu'il y avait beaucoup de créativité en moi, que j'avais besoin d'un autre univers où je pourrais beaucoup plus prendre ma vie en main. Et donc j'ai démissionné du Louvre et peu de temps après j'ai rencontré Antonella Verdiani et j'ai créé Printemps l'éducation. Ce qui correspond tout à fait pour moi à une vision de l'école de la vie, c'est-à-dire une école où en fait on est tous en apprentissage, petits et grands. Il y a un plaisir d'apprendre tout le temps, où en fait il n'y a pas de lieu spécifique et de temps spécifique pour apprendre, en fait c'est partout. Et avec une joie de partager ces apprentissages. Donc je suis très contente d'avoir cheminé jusque-là. Et c'est pas fini.
Et c'est pas fini. Alors, le printemps de l'éducation, comment est né le projet? Quelle était l'idée au départ et qu'est-ce que c'est?
Alors le printemps de l'éducation, déjà en 2012, ça faisait plusieurs années qu'il y avait un groupe qui cheminait autour de cette idée, autour d'Antonella Verdiani. Enfin, l'idée est venue surtout de parents qui souhaitaient une autre éducation pour leurs enfants, notamment une autre école. Et il y a eu des réflexions, des rencontres. Et au fur et à mesure, l'idée s'est matérialisée en association en mai 2012. Et en fait, la mission du Printemps de l'éducation, c'est de réunir, de faire connaître tous ces acteurs en fait qui agissent sur le terrain, qui agissent à différents niveaux. Ça peut être sur le temps scolaire, le temps périscolaire. Ça peut être auprès des familles. Ça peut être par différents médias comme l'art, la nature. Faire connaître toutes ces avancées aussi dans la recherche, les neurosciences, etc. Parce que maintenant, on sait, en fait, on a l'information est disponible. Donc ça, c'est important de la faire partager. Voilà.
Mais qu'est-ce que tu veux changer ? Qu'est-ce que vous voulez faire changer par rapport au système actuel ? Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu observes ? Et qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire ? Et comment mieux faire ?
Il y a plusieurs pistes qui sont déjà éprouvées depuis... quasiment un siècle, parce que les pédagogies nouvelles sont apparues après la Première Guerre mondiale, notamment. Et donc ça, je pense qu'il y a des choses vraiment très simples à mettre en place, notamment aussi dans le système public. Alors ça peut être les classes multi-âges. Les classes multi-âges, c'est très intéressant parce que ça permet l'autodiscipline, moins de concurrence, plus d'entraide, plus de coopération. Ensuite, il y a les intelligences multiples qui sont très intéressantes. C'est-à-dire, c'est comme dans un jardin, en fait. Chaque plante, chaque animal a sa fonction, en fait. Et ce qui est intéressant avec les intelligences multiples, c'est de partir du talent de l'enfant, du talent naturel de l'enfant, qui puisse gagner en confiance en soi par rapport à ce talent, et puis voir aussi quels sont les autres talents qu'il a. Et ça permet de voir aussi la complémentarité et la puissance de la complémentarité des talents au sein d'une classe et au sein d'un écosystème global, au sein d'une famille, au sein de... Et je pense que ça permettrait à des enfants qui sont pas vraiment dans l'intelligence logico-mathématique et linguistique, qui sont les deux intelligences qui sont les plus mises en avant à l'école, de voir qu'ils ont des atouts dans, par exemple, l'intelligence naturaliste ou alors kinesthésique ou alors musicale, et de voir que finalement, ils ne sont pas nuls, parce qu'il y a des enfants qui se considèrent par ce qu'on leur renvoie pas bon. C'est vrai qu'en France, l'erreur est... on parle beaucoup d'erreur, en fait, et beaucoup moins de marge de progression. Donc je pense que ce qui est très important, c'est de conserver la curiosité de l'enfant et l'estime de soi. Et donc il y a différentes manières de mettre ça en place. Donc j'ai évoqué les classes multi-âge, les intelligences multiples. Après, il y a le lien à la nature et le lien au corps et aux émotions aussi. Je pense qu'il est important de très jeune de pouvoir apprendre à respirer, apprendre à s'apaiser aussi quand on a des émotions, apprendre à verbaliser certaines émotions. Il y a également, ce qui me semble très important aussi, c'est la capacité à échanger sur ce qui nous arrive au quotidien en tant qu'enfant, à travers des cercles de parole, à travers des cercles philosophiques, pour devenir petit à petit acteur, en fait, et s'exprimer comme un adulte. C'est-à-dire que je considère aujourd'hui que les enfants n'ont pas cet espace d'expression qui me semble tout à fait indispensable pour se forger un esprit critique et pour pouvoir commencer à avoir sa place en tant qu'être humain dans le monde. Il y a différents chercheurs qui ont élaboré en fait une liste de qualités essentielles pour les citoyens du 21e siècle. Les grands enjeux d'aujourd'hui, on le sait, c'est... préserver la planète et aussi mettre en place des écosystèmes sociaux, économiques viables. Donc, par rapport à ces grands enjeux, l'idée, ce serait de pouvoir permettre à ces enfants, ces futurs adultes, de développer certaines qualités qui sont la coopération, l'empathie, le lien avec la nature, qui sont également la curiosité, la capacité à faire des liens, l'apprendre à apprendre, on parle beaucoup aussi de ça, c'est-à-dire comment je travaille, quel est mon fonctionnement, l'esprit critique, faire la synthèse, aller chercher les informations.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
J'entends bien tout ce que tu me dis, c'est un programme de rêve, mais ce qui se passe aujourd'hui, quelqu'un utilisait l'image du sac vide où l'enfant, on le compare à un sac vide qu'on va remplir de connaissances et de connaissances et de connaissances sans jamais lui laisser finalement la possibilité de s'exprimer, de se dévoiler, de se révéler par lui-même. Ton programme, moi je vote tout de suite pour toi, là, il n'y a pas de souci, mais il y a du boulot. Comment est-ce qu'on va y arriver?
Oui, je pense que... Alors, c'est sûr, ça prend du temps. Après, je pense que c'est important d'avoir une vision systémique et au niveau de la communauté éducative, en fait. À partir du moment où on prend en compte toute la communauté éducative, donc les enseignants, les parents, les enfants et toutes les personnes qui gravitent autour d'eux, ça entraîne beaucoup plus les parents ou les personnes qui sont plus, qui ont peut-être plus besoin d'être accompagnées à changer. Et tout ça sans jugement, en fait. Et c'est vrai que chacun a son rythme aussi. Donc je trouve que c'est assez subtil, en fait, à faire. C'est un peu de l'orfèvrerie. Et je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est justement des personnes qui puissent accompagner les équipes au changement dans les établissements. Et en intégrant justement voilà, tout l'écosystème, ça commence un petit peu à venir, mais surtout dans le privé. Je pense que les réformes ne peuvent pas se faire s'il n'y a pas quelqu'un d'extérieur dont le métier est d'accompagner le changement. Donc ça me paraît essentiel. Et puis plus de porosité aussi entre les établissements et l'extérieur, par exemple. Je trouve ça très intéressant que les établissements puissent s'ouvrir au voisinage proche. Et notamment, mon rêve, ce serait que chaque établissement, notamment en primaire, puisse accéder à un jardin participatif pour aller observer les plantes, pour aller voir le potager, pour aider. Et là, ça crée aussi du lien intergénérationnel, ce qui me semble très, très important et qu'il n'y a pas assez aujourd'hui dans l'école. Enfin, c'est encore un lien assez... assez descendant, où les enfants sont à leur place, les adultes aussi. Et je pense qu'il y a des choses à décloisonner.
Après, ça dépend aussi des territoires dans lesquels sont implantées les écoles. Une école dans un village à la campagne aura sûrement un jardin.
Oui, tout à fait. Alors moi, je suis sur Paris et je m'intéresse beaucoup à l'agriculture urbaine, à tous les projets participatifs sur Paris. Et je vois à quel point ça crée vraiment des choses intéressantes parce que il n'y a pas d'enjeu forcément. C'est juste le plaisir de jardiner ensemble, de s'émerveiller aussi. Je pense que c'est important de garder cette capacité d'émerveillement. Donc là, je parle surtout des écoles citadine, et je pense qu'il y aurait beaucoup à faire. Après, bien sûr, à la campagne, c'est autre chose.
Et donc les printemps d'éducation, c'est un peu une sorte de réseau qui coordonne, qui met en lien différentes alternatives.
Oui, tout à fait. Il y a aussi des comités locaux qui permettent aux gens de se rencontrer régulièrement, et je pense que ça, c'est très important parce que les porteurs de projets dans l'éducation une autre éducation, ont besoin d'être soutenus aussi et ont besoin de se retrouver parce que en ce moment, il y a un certain nombre de barrières qui ne sont pas forcément faciles à lever. Donc c'est important d'échanger les stratégies, d'échanger les informations. Je vois beaucoup ça au niveau des créateurs d'écoles, en fait, qui s'échangent beaucoup d'informations sur comment ils font pour aller chercher de l'argent, pour trouver un local, et puis des échanges d'informations autour de tous les documents administratifs aussi, parce que ça, c'est aussi important. Enfin, voilà.
Il y aurait toute une démarche à faire aussi autour de l'éducation des parents, de la formation, alors, c'est peut-être plus juste.
Oui, alors il y a déjà un certain nombre d'acteurs. On voit beaucoup en ce moment des ateliers de communication parents-enfants, Faber et Maslitch, etc. Je pense que c'est une démarche assez profonde, en fait. Donc c'est à chacun son rythme. Voilà, c'est à chacun son rythme. Alors, il y a des démarches qui se font au niveau personnel et il y a d'autres démarches qui peuvent se faire en groupe. Voilà, peut-être que c'est plus facile de rejoindre un groupe pour commencer à réfléchir ensemble. C'est vrai que c'est une vraie question hein, d'être parent aujourd'hui ou d'être éducateur en général, hein, d'être en lien avec des enfants. Ça demande un travail sur soi assez, assez important, un travail sur ses émotions. Donc voilà, c'est une démarche. C'est une démarche et c'est... ça vient de la personne. Voilà, c'est...
Et pour tous les parents qui se posent la question, voilà, qui sont jeunes parents, qui ont un enfant, arrive le temps de l'école. Donc les parents s'interrogent sur comment on fait, dans quelle école est-ce que tu vas aller, est-ce qu'il y aurait des clés, des questions à se poser, ou des bonnes questions à se poser pour savoir comment bien choisir l'école pour son enfant. Parce que j'entends souvent dans cette série d'interviews que je fais, on me dit, mais en fait, chaque enfant est une individualité propre. Mmh. Et certaines, tu parlais avant du côté artistique, donc peut-être que s'entendra très bien avec la pédagogie Steiner, mais peut-être moins avec la pédagogie, je ne sais pas. Enfin, chaque enfant, finalement, il y en a qui résistent très bien au système pyramidal de l'éducation nationale.
Oui, alors je pense que ça dépend déjà, la première chose, c'est que ça dépend du contexte proche, c'est-à-dire est-ce qu'il y a quelles sont les écoles disponibles dans le quartier, voilà. L'idée n'étant pas de faire des heures de transport aux enfants, bien sûr. Donc ça, c'est la première question, si on veut rester au même endroit. Ensuite, il y a des parents qui déménagent. Par exemple, il y a des parents qui vont vivre dans la Drôme pour être à l'école, à l'école du Colibri aux Amanins. Et de toute façon, l'idée, c'est plutôt d'essaimer ce genre d'école. Voilà. Donc après, je pense que c'est vraiment expérimental, en fait. Être parent, c'est un laboratoire de recherche au quotidien. Avec tout ce que cela implique de doutes, de questionnements avec son enfant et puis aussi de déconditionnement par rapport à ses propres croyances, à sa propre éducation et voilà, donc c'est une sacrée aventure.
Il y a aussi une sorte de reproche ou une limite que j'entends pas mal par rapport à tout ce qui est système éducatif alternatif, c'est le côté élitiste où souvent ce sont des systèmes payants.
Ah oui, tout à fait. Alors là, je pense qu'il y a une grande inégalité aujourd'hui. En fait, je pense que c'est très important de rappeler le coût de l'école publique. L'école publique coûte environ 8 000 euros par élève en primaire, environ 10 000 au collège et au lycée, je crois que c'est dans les 12 000, quelque chose comme ça. Et en classe prépa, c'est encore plus. Voilà. Une école alternative, elle coûte entre 200 et 600 euros par mois, en général sur 10 mois. Voilà. Donc ça permet quand même de voir. Je pense que c'est important de remettre ça au cœur parce que, en fait, il n'y a pas le choix aujourd'hui. Soit on va dans le système public et on paye l'école publique à travers ses impôts, soit on choisit une école alternative et on paye doublement l'école à travers ses impôts. Et en payant un prix qui est, c'est sûr, assez élevé. Je trouve qu'il y a une certaine inégalité. Et il y a, aux États-Unis, en fait, il y a un système qui s'appelle le chèque éducation, qui permet, quand on ne veut pas mettre son enfant dans l'école publique, en fait, l'État donne la quote-part qui correspond, la quote-part d'impôt qui correspond à l'éducation. Et après, donc, le parent peut choisir son école. Également, aux États-Unis, il y a beaucoup d'écoles Montessori. Je crois qu'il y a plus de 300 écoles Montessori publiques. Ça me paraît aussi important de pouvoir reconnaître des pédagogies qui ont fait leurs preuves et de pouvoir permettre le choix. Aujourd'hui, il n'y a pas de choix.
Ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Mais est-ce qu'il y a un mouvement citoyen qui est en train d'essayer de faire passer ça auprès du gouvernement pour qu'on puisse avoir, nous aussi, des chèques éducatifs?
Il y a plusieurs mouvements qui se fédèrent, dont le Printemps de l'éducation, pour faire avancer la question. Et je pense que aussi l'arrivée des écoles démocratiques, elle questionne aussi sur non seulement sur le modèle économique, mais aussi sur... sur sortir du cadre. Et je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'être dans une époque où on peut créer beaucoup de choses, même si parfois c'est difficile. Et la question, c'est de savoir comment créer de nouveaux systèmes économiques, de nouvelles façons de se rencontrer, il y a plein de choses à faire.
Et en plaçant donc l'enfant au centre, quoi, en permettant à l'enfant de se révéler par lui-même et pas en le bourrant de connaissances et de compétences.
Oui, en plaçant l'enfant au centre et je dirais dans la place naturelle qu'il a parmi les autres, en fait. Moi, je trouve que l'intergénérationnel est super intéressant. Il y a des endroits où, par exemple, il y a des maisons de retraite dans des crèches ou inversement, des crèches dans les maisons de retraite. Et je trouve ça génial parce que je pense qu'on a besoin de beaucoup plus de joie.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
L'école nous permettait d'accéder à des études, les études d'accéder à des diplômes à des métiers bien payés. et sans forcément beaucoup de remise en cause jusqu'au premier peut-être premier job. Après, on a la capacité peut-être de plus de remettre en cause son éducation, mais là aussi ça c'est une démarche personnelle, c'est une prise de conscience personnelle. Je pense que si dès le plus jeune âge on permettait aux enfants d'accéder à la nature, à ce qui est gratuit en fait, à ce qui a tellement de valeur qu'on ne peut pas y mettre du prix, accéder à sa propre vie intérieure, comme dit Thomas d'Ensembourg, en fait, pour vivre une vie profonde, c'est important d'accéder à sa vie intérieure, d'avoir une vie intérieure riche, en fait, pour avoir une vie profonde. Pour moi, ce qui est important, c'est de permettre aux enfants de pouvoir comprendre, s'émerveiller devant la beauté de la nature pour avoir envie de la protéger, parce que si je la trouve pas belle, si je m'estime pas faire partie de cette nature, j'ai pas cet élan en fait de protéger la nature, mais surtout protéger la vie en fait.
Merci Blandine.
La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les deux mois.